pertinente, intelligente, énergique et souriante. Voici l'effet. L'effet Normando. Réseau Cogeco. Voici l'effet Normando avec Nathalie Normando.
10h05, je vous souhaite un très bon mercredi. Bienvenue au Réseau Cogeco. Bienvenue à l'effet Normando. Pour notre menu du jour, je vous propose aujourd'hui trois sujets. Tout d'abord, un sujet qui est incontournable. Vous ne serez pas surpris de m'entendre parler de la contribution santé annoncée par le gouvernement, par le premier ministre François Legault. En fait, on devrait parler davantage d'une intention d'imposer une contribution santé pour les non-vaccinés. On va débuter l'émission avec ce sujet et je vous demande, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes en accord, en désaccord avec une mesure comme celle-là? On va également parler de maltraitance à l'endroit des animaux. Un article dans Le Devoir qui est venu me chercher personnellement. La maltraitance des animaux, c'est un sujet qui me vire à l'envers, je vais vous le dire. Je vous confie ça ce matin. J'ai beaucoup de difficultés avec les gens qui s'en prennent aux animaux. Et on va parler, question de mettre un peu de légèreté dans notre mercredi, la fin de District 31. Est-ce que votre cœur saigne? Si vous êtes fan, comment pensez-vous remplacer votre série préférée. Les coordonnées pour nous joindre, le texto, messagerie texte 98-98-5 ou encore le courriel nathalie@98.5fm.ca. Je vais tout de suite commencer peut-être avec une réaction de Sylvie sur cette contribution santé. En fait, l'intention, c'est important le mot intention parce que le premier ministre a dit hier qu'ils vont plancher sur cette possibilité d'imposer une pénalité ou encore une espèce d'impôt. On ne sait pas trop quelle forme ça va prendre, ou contribution aux non-vaccinés. Les non-vaccinés au Québec, je vous le rappelle, là, c'est un petit peu plus de 600 000 personnes. C'est 10 % de la population. Et hier, à l'émission, Jean-Marc Léger nous a dit, de ce 10 % 5 % constituent le noyau dur, c'est-à-dire ceux qu'on désigne comme les anti-vax ou les complotistes ou les réfractaires de l'ordre sanitaire, comme je les appelle gentiment. Alors, ça représente à peu près 300 000 personnes. Alors, le gouvernement, répondant à la grogne populaire, c'est-à-dire les vaccinés à l'endroit des non-vaccinés, nous a annoncé cette intention. Est-ce que c'est un ballon d'essai ou est-ce que c'est une façon de changer la conversation sur le plan politique? Il a fait cette annonce. La journée même où il commentait la démission du docteur Arruda, on n'en sait trop rien, mais ce qu'on sait cependant, c'est que ça mobilise énormément de gens au Québec. C'est un sujet qui est d'actualité. Il y a Sylvie qui a voulu réagir, qui nous a écrit par texto. Amende en impôt pour les non-vaccinés, moi, je trouve pas que c'est une bonne idée. Ils disent qu'il y a plus ou moins 5 % de gens, comme je soulignais. Combien cela va coûter pour mettre tout ça en place? Payer les avocats qui doivent vérifier comment on va mettre tout ça en marche. Engager des gens pour vérifier si les gens ont payé ou pas. Engager des employés supplémentaires pour faire réclamation. Bref, pourquoi ne pas mettre cet argent ailleurs dans d'autres priorités, comme les conditions d'emploi des gens qui travaillent en CHSLD ou dans les hôpitaux? Et vos réactions, évidemment, commencent à être très nombreuses déjà. Avant de vous entendre, de poursuivre ma lecture sur vos commentaires, permettez-moi de vous présenter une entrevue que j'ai faite un peu plus tôt ce matin avec le docteur Yves Bonnier-Vigier. Il est directeur de la santé publique de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine. Il est le premier directeur régional de santé publique au Québec à lever la main pour dire « moi ». Je m'oppose à cette mesure. Voici ce qu'il m'a confié, ce qu'il m'a dit ce matin à propos des intentions du gouvernement. Voici ce que ça donne. Docteur Bonnier-Vigier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur régional de la santé publique Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Pourquoi vous vous opposez à la contribution santé, au principe de la contribution santé annoncée par le premier ministre François Legault hier?
Dans un premier temps, ce que j'ai fait remarquer, c'est que avant d'annoncer une mesure aussi importante, il faut prendre le temps de bien l'explorer, l'examiner. Et puis, dans un deuxième temps, ce que je dis, c'est qu'à première vue, en tout cas, sans avoir fait d'études très extensives, ça va à l'encontre des principes de base de la santé publique. Pour la très simple raison que imposer une pénalité aux gens qui sont pas vaccinés, d'abord, ça crée une nouvelle catégorie de personnes qui divisent un petit peu notre population. Et d'autre part, ben la santé publique s'appuie quand même sur une tradition d'études scientifiques et de consensus scientifique. Et parmi ceux-là, il y en a un important, là, c'est la façon dont on réussit à produire de la santé et du bien-être. On appelle ça la Charte d'Ottawa. Et c'est 5 principes de base qui sont fondamentaux qu'on doit toujours respecter dans nos interventions de santé publique. Et le premier principe, c'est qu'on doit s'organiser pour permettre d'augmenter le pouvoir d'agir des personnes. Ça veut dire aussi leur pouvoir de décider. Le deuxième, c'est d'augmenter le pouvoir d'agir des communautés elles-mêmes. Ensuite, d'augmenter la capacité d'avoir des environnements qui sont favorables à la santé et au bien-être, d'avoir des politiques publiques qui favorisent la santé et la prévention, et puis finalement, d'organiser notre système de santé pour qu'il accorde une place importante à la prévention et à la promotion.
Donc, alors, pour vous, c'est ça, ce serait une mesure qui contribuerait non seulement à stigmatiser une partie de la population, c'est-à-dire les non-vaccinés, mais en même temps, ça irait à l'encontre des principes fondamentaux qui vous guident en tant que directeur régional de santé publique.
C'est exactement ça. Spontanément, c'est ça.
Dites-moi, vous avez plusieurs années d'expérience derrière la cravate, comme on dit. Est-ce que c'est la première fois de votre vie comme spécialiste en santé, en prévention, que vous voyez un gouvernement poser un geste de cette nature ou qui annonce son intention de poser un geste de cette nature?
Non, on a souvent des discussions, mais ce qui est dommage, c'est un petit peu l'improvisation actuellement. Là, c'est que, il me semble qu'avant d'annoncer ça, ça aurait été préférable d'avoir une petite rencontre avec les spécialistes de la santé publique, parce qu'on parle d'une pandémie, c'est vraiment une infection qui concerne l'ensemble de la population. Je pense que les mesures à prendre pour contrer ça doivent être discutées avec les gens qui ont été formés, là, qu'on a payé pour aller à l'école pendant un bon bout de temps pour apprendre comment ça marche et puis s'en servir, utiliser ça avant de se lancer dans des annonces peut-être un peu trop rapides.
Je comprends que vous n'avez pas été consulté en tant que responsable de la santé publique de la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine.
Non, pas du tout.
Est-ce que vous souhaitez être consulté sur cette mesure spécifiquement?
Bien sûr, puis je crois comprendre que c'est peut-être ça qui va arriver, parce que quand on a posé la question au nouveau directeur de la santé publique, Luc Poilot, il a dit qu'il allait regarder la question à la lumière des évidences scientifiques, etc. Donc j'imagine que c'est ce qui va arriver. C'est juste dommage que là, ça lance une idée dans la population qui est beaucoup plus compliquée qu'elle n'apparaît à première vue.
Oui, pour vous, c'est difficilement dans son application, au-delà des principes là, que vous défendez en tant que directeur régional de santé publique, vous croyez que dans son application, ce serait extrêmement difficile?
Oui, mais c'est surtout que il n'y a pas une catégorie homogène de personnes non vaccinées. Il y a des personnes qui ne sont pas vaccinées actuellement pour plusieurs raisons différentes. Et certaines tiennent à des choses aussi simples que médicalement parlant, pour toutes sortes de raisons, ne sont pas en mesure de l'être, jusqu'à des gens qui ont vécu dans leur histoire des traumatismes avec le système de santé, qui font pas confiance et qui ont besoin d'être assurés. Donc, quand on a quand même atteint collectivement un niveau de vaccination qui est tout à fait remarquable. Le bout qui nous reste à faire, on peut pas le faire en imposant des choses. Je pense qu'il faut aller auprès de chacune des personnes et puis essayer de comprendre quelles sont les barrières, puis lever ces barrières-là pour justement appliquer le premier principe qui est d'augmenter le pouvoir d'agir et de décider des personnes.
Mais j'entends déjà Dr. Bonnier viger nos auditeurs réagir en disant « Mais qu'est-ce qu'on fait avec le noyau dur? » Ceux qu'on associe souvent au complotisme ou encore les antivax, ceux qui sont contre les mesures, les réfractaires de l'ordre sanitaire, comme je les appelle, en fait, c'est 5% de la population adulte au Québec, c'est à peu près quoi, 300 000 personnes. Eux, là, j'ai l'impression que le dialogue, là, c'est pas quelque chose...
Bien sûr, mais entre le 10% et ce 5%-là, il y a une marge. Et puis, ces 5%-là, bien sûr, on peut rien faire avec ça, mais je pense pas que ça soit dramatique du point de vue de santé publique et qu'il y ait 5% de personnes non vaccinées. C'est pas ça qui va mettre en péril notre système ni propager davantage le virus. Ça reste dommage, mais on n'a jamais réussi dans n'importe quelle vaccination au monde à couvrir 100% de la population.
Ben, c'est dit. Merci beaucoup. Et peut-être une réaction, dernière réaction de votre part suite justement au départ du Dr Arruda avec qui vous avez travaillé.
Ben, on est une équipe en santé publique. Hein. Il n'y a personne qui fait rien tout seul. Alors, on change de capitaine et puis on souhaite la bienvenue au nouveau capitaine. On souhaite un bon repos à l'autre et puis on continue le travail.
Merci beaucoup, Dr Yves Bonnier-Vigier. Je le rappelle, vous êtes directeur régional santé publique Gaspésie de la Madeleine. Bonne année à vous.
Merci, bonne année à tout le monde.
Au revoir. Alors voilà, vous l'avez entendu, vos réactions sont évidemment très nombreuses. Je vous donne nos coordonnées téléphoniques pour partager votre réaction. 1-866-790-9850 ou le 514-790-9850 sur cette idée d'imposer une contribution santé pour les non-vaccinés. Est-ce que c'est bon? Vous êtes en accord, en désaccord? Maryse nous écrit, est-ce que quelqu'un peut affirmer encore que François Legault écoute la science? D'autres réagissent en disant, ben, à situation extrême, mesure extrême. Autre réaction sur le texto, je trouve dommage qu'on entraîne cette attention, qu'on déploie cette attention sur les non-vaccinés en projetant le mirage que tout sera réglé en imposant le vaccin par des moyens comme la contribution santé. Vous l'aurez deviné, hein, la contribution santé, en fait. Puis là, on a aucun détail sur combien, par exemple, quel sera le montant de cette contribution santé. Ce matin, Francis Weiss, dans la presse, publie un texte. Il a fait la démonstration que ça coûte au Québec, ça nous coûte collectivement 1 million de dollars par jour pour les non-vaccinés. Il a fait un calcul là, pour compenser cette somme qu'on débourse collectivement, il faudrait imposer une contribution annuelle de 500 $. 500 $, est-ce que c'est un montant significatif? Hier, François Legault dit, moi, là, c'est une contribution pour moi, ça doit être substantiel et significatif. Des montants comme 50 $, 100 $, pour lui, ce n'est pas significatif et substantiel. 500 $, est-ce que ça pourrait être plus substantiel? En fait, l'objectif ultime, c'est de pousser les non-vaccinés dans leur dernier retranchement et de les inciter à recevoir à tout le moins leur première dose. C'est ça l'objectif que poursuit le gouvernement. Mais en même temps, ce que poursuit le gouvernement comme objectif, c'est de répondre à la grogne populaire. Vous le savez, je vous entends, je vous lis là tous les jours. Là. Et puis moi, je suis dans le clan des vaccinés comme vous. Là, on en aura le pompon là, d'entendre souvent les discours anti-vaccins. Puis on se dit, ben voyons donc, ce n'est pas possible. Et ajouter à ça le fait qu'on est en délestage... important au Québec. On va même probablement créer un autre niveau de délestage parce que les urgences, certaines urgences, certaines unités de soins intensifs débordent au Québec. Alors, on se dit, bien, la façon de régler ça, c'est du moins politiquement de pousser les anti-vax à aller se faire vacciner. On va aller à la pause et je vais continuer de vous lire et de vous entendre sur vos réactions à cette intention du gouvernement d'imposer une contribution santé. En passant, on serait les seuls sur la planète à imposer une contribution de ce type. Il y a d'autres endroits ailleurs, une vingtaine de juridictions qui ont imposé la vaccination obligatoire à laquelle est associée une contravention ou une amende si la personne ne va pas se faire vacciner. Le seul endroit dans le monde où on dit aux non-vaccinés, si vous recevez des soins de santé, vous allez payer, c'est à Singapour. Si vous êtes un non-vacciné et que vous entrez à l'hôpital, ça va vous coûter 4 000 $ par semaine pour des soins réguliers et 22 000 $ par semaine pour des soins intensifs. Imaginez. Alors, le Québec est audacieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que la mesure tiendra la route? La question est posée.
Jusqu'à midi, vous écoutez l'effet Normandeau.
Oui, alors réaction très nombreuse de votre part, sans étonnement, parce que c'est un sujet qui fait débat, qui fait rage actuellement, et on n'a pas fini d'en parler. Il y a l'aspect évidemment politique de cette mesure liée à une éventuelle contribution santé pour les vaccinés. Il y a des enjeux éthiques, juridiques, d'ailleurs, on y reviendra plus tard dans l'émission. Vos réactions, Pierre, sur le courriel, au lieu de punir les non-vaccinés, récompensons les vaccinés en les exemptant de payer la contribution au fonds santé de 150 $ qu'on ajoute à l'impôt à payer lors de la déclaration de revenus. J'aime beaucoup cette proposition, Pierre. D'ailleurs, vous êtes nombreux à aller dans ce sens-là. Un autre auditeur nous écrit sur le texto, le renforcement positif serait probablement un meilleur incitatif que de la répression. On paye déjà assez cher au Québec. Autre réaction. Il y a des témoignages plus personnels, mais c'est vraiment... c'est vraiment, je vous le dis, là, pour l'instant, c'est divisé de votre côté. Il y a des pour, il y a des contre. C'est vraiment pas, c'est pas si limpide que ça, cet accord de la population, l'endroit de cette mesure annoncée par le premier ministre François Legault. Cynthia est au bout du fil. Elle souhaite s'exprimer sur le sujet. Bonjour à vous, Cynthia.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette contribution santé?
Ben moi, je pense que c'est pas du tout une bonne idée parce que j'ai comme l'impression que on cible pas le véritable problème. On met notre accent sur les 10 % de la population qui occupe 50 % des lits, mais en réalité, qu'est-ce qui se passe des 50 autres personnes? Ce sont tous des vaccinés qui occupent des lits à l'hôpital. Fait que c'est comme ça encombre aussi le système de la santé. Mais on parle jamais d'eux. Puis c'est qui ce profil-là? C'est qui ces gens qui occupent des lits? Les 50 autres personnes vaccinées qui occupent des lits? Fait que là, les gens qui sont pas vaccinés, ils vont payer pour ces gens-là aussi qui occupent 50 %. Moi, je pense que la problématique, c'est pas les non-vaccinés. La problématique, c'est que il faut cibler le réseau de la santé. C'est ça le véritable problème. Puis aussi, le véritable problème, c'est qu'il faut se le dire. Moi, je suis vaccinée, mais il faut se le dire qu'il y a un échec au niveau de la vaccination. Pas au niveau de la prévention de la maladie, mais au niveau de la transmission de la maladie. C'est vraiment ça le problème. Fait qu'on est là à aller chercher à courir auprès de 10 % de gens qui sont pas vaccinés, alors qu'on cible pas le vrai problème. Le premier ministre, au lieu de nous envoyer des solutions pour nous dire voici comment on va renforcer le système de la santé pour réussir à soigner tout le monde, ben on est là à chasser 10 % de la population. C'est ça que je trouve que le message n'est pas bien ciblé. C'est l'échec de la vaccination au niveau de la contagion, c'est ça le véritable problème. C'est ça qui fait que nous sommes tous renfermés chez nous. On peut pas sortir parce qu'il y a de la contagion. C'est ça le problème. Comprenez-vous ce que je dis?
Absolument, tout à fait. Merci beaucoup, Cynthia, d'avoir pris soin de nous téléphoner. Avant d'aller à Alexandre, autre réaction sur texto. Bonjour, Nathalie, c'est triste à dire, mais la seule manière de faire comprendre, c'est de jouer dans les poches des contribuables. Autre réaction de Nancy, elle est vaccinée. Je trouve complètement stupide cette façon de faire du gouvernement face aux non-vaccinés. S'ils vont de l'avant avec cette mesure, ils devront prendre les mêmes mesures pour tous les obèses qui occupent des lits dans le système par manque d'alimentation. Effectivement, vous avez raison, l'auditeur nous écrivait plutôt ça ouvre une boîte de Pandore. Autre réaction de Martin, de Lévis, c'est une bonne chose. Ceux qui ne comprennent pas, ben qu'ils paient. Alors, vous avez des positions très tranchées, c'est-à-dire vous êtes pour, vous êtes contre. Je ne vois pas beaucoup de zones de gris ce matin dans vos propos. Il y a Alexandre qui, à son tour, souhaite ajouter son grain de sel à ce débat ce matin sur la contribution santé pour les non-vaccinés. Allô, Alexandre?
Oui, bonjour, Mme Normando, ça va bien?
Oui, ça va bien. On vous écoute, mon cher.
Ben dans le fond, moi, je suis contre ça. Je suis d'accord avec Pierre qui devrait faire l'inverse, peut-être plus donner aux vaccinés, rendu là. Parce que même si on va chercher plus d'argent dans leur poche, ça va pas faire en sorte que notre système de santé va aller mieux que ce qui est présentement, qu'on s'entend qu'on manque de monde puis tout, puis aller chercher dans la poche, ça va rien changer. Puis le vaccin, présentement, là, honnêtement, moi, j'ai mes deux doses de vaccin. Présentement, tout ce qui est fermé, c'est tout ce qui était accessible seulement aux vaccinés. Fait que les non-vaccinés pouvaient même pas être dans ces endroits-là, puis on les a quand même fermés présentement. Fait que je vois pas le but d'aller chercher plus d'argent dans leur poche. Déjà qu'on paye des impôts à la base tout le temps pour aider au système de la santé et tout le reste, là, mais on paye déjà des impôts. Fait que là, on va payer encore plus. On va les faire payer plus qu'ils payent déjà. Je comprends juste pas le but de ça qui va en sorte que ça va les pousser à aller se faire vacciner. S'ils veulent pas, ils vont juste pas y aller quand même. Si ça coûte 5 cents de plus dans leurs impôts, ça va rien changer, là.
Oui, ben là, on dit 500 de plus, là, c'est un chiffre qui est avancé par journaliste de la presse ce matin, Francis Weiss. Mais Alexandre, dans le fond, l'autre problème, c'est celui-là, là. Dans l'application de ça, là, c'est quoi le montant? Il y a un auditeur qui écrivait tantôt, voyons donc, 500, c'est pas assez. Moi, ça serait 5000, mais là, tu sais, 5000, ça va-tu être perçu comme trop abusif? Je pense pas que le gouvernement aille dans cette direction-là. Quoique, on a imposé des contraventions de 1 500. Rappelez-vous, dans le cadre de la première vague, là, si tu respectais pas, là, les mesures sanitaires à la maison ou avec le couvre-feu. Merci beaucoup, Alexandre, d'avoir appelé. Très gentil. Claude, maintenant. Bonjour, Claude.
Oui, bonjour, Mme Normando. Vous allez bien?
Oui, je vais bien. Et vous, on vous écoute, mon cher.
Oui, merci beaucoup. Écoutez, moi, je pense que ça prend réellement un traitement à choc pour faire réaliser à ces gens-là qui bloquent la société. Le gouvernement était capable de, de mettre que ça prend le passeport vaccinal, pardon, pour aller à SQDC et à SAQ, il devrait l'exiger pour renouveler les permis de conduire et les plaques d'automobile. Ça, ça ferait tout un traitement à choc, puis là, il y aurait de quoi jaser. Pas mal mieux qu'une charge pour aller à l'hôpital.
Oui, parce que il y a nous. Ben, en fait, moi, si vous voulez mon avis, mon humble avis sur cette question, moi, je pense que la vaccination obligatoire pour les 50 ans et plus, ce serait plus simple. Il y a un auditeur comme Alain qui nous écrit pour lui, là, c'est le passeport vaccinal qui réduit la propagation. Mais pour avoir le passeport vaccinal, on s'entend, il faut que tu sois vacciné au préalable. Il y a une vingtaine d'États sur la planète qui ont déjà décidé de vacciner obligatoirement leur population. Autriche, toute la population, mais dans les autres juridictions, c'est des groupes ciblés. Pourquoi 50 ans et plus? Parce que si vous regardez les statistiques liées aux hospitalisations, c'est à partir de cette tranche d'âge qu'il y a le plus d'hospitalisations. Alors, je ne sais pas si on pourrait vivre collectivement avec ça. Je ne sais pas, vous, Claude, le gouvernement annonce la vaccination obligatoire pour les 50 ans et plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que le gouvernement ne veut pas, comment dire, préfère politiquement tourner autour du pot que de faire face à la musique.
Ah, vous avez entièrement raison. Mais je vous dis que ceux qui ne sont pas vaccinés, quand ils verraient que pour renouveler leur permis de conduire et leur plaque d'auto, ça leur prend un passeport vaccinal, ils iraient se faire vacciner, je vous le dis.
Merci beaucoup, Claude, d'avoir appelé. Souvent, quand ça touche tes poches, hein, tu réagis. Il y a un auditeur qui nous disait, il semblerait que la Finlande également va facturer les non-vaccinés qui se retrouvent à l'hôpital pour un séjour, soit en soins réguliers ou en soins intensifs. Marie, bonjour à vous, c'est à votre tour.
Oui, bonjour, bonjour. En parenthèse, j'ai bien aimé les propos de Claude. Je suis 300% derrière le gouvernement pour qu'il soit de plus en plus sévère. Maintenant, moi, il y a deux points que j'aimerais apporter. Les gens qui sont sur l'aide sociale, là,
oui.
Il y en a un paquet, là. Moi, j'en connais trois, et les trois, ils veulent pas se faire vacciner. Tu sais, ça fait qu'eux autres, ils s'en fichent parce que ils pourront pas être poursuivis, ils ont rien. Faudrait trouver une façon pour eux autres. Puis depuis que le premier ministre a parlé hier, j'entends les gens qui disent « Ouais, mais là, on va refuser de traiter les obèses, on va refuser de traiter les fumeurs. » Non, ça n'a rien à voir. Faudrait que les gens comprennent que on a affaire à une maladie contagieuse. Alors, Absolument. Le cancer, c'est pas contagieux. L'obésité, ce n'est pas contagieux. Tous les autres problèmes, puis les fumeurs, ben ils sont déjà pas mal taxés sur le prix des cigarettes. Puis, c'est ça. Mon point, c'est ça, à matin.
OK. Bien, merci beaucoup, Marie. Votre point est très limpide, très clair. Là, Robert, vous me faites sourire ce matin, là. Robert écrit « Loi martiale, finis les contestations, transformez le stade olympique en hôpital militaire pour les non-vaccinés. » Mon Dieu, une petite camomille, Robert? Non, mais là, on s'entend, là, c'est beaucoup trop drastique comme solution. Par contre, vous êtes nombreux à dire le passeport vaccinal, c'est la solution. Pour avoir accès à tous les commerces, obligation du passeport vaccinal, ils feront l'épicerie en ligne. En fait, ce que le gouvernement cherche, c'est vraiment à privilégier un moyen pour pousser le maximum de personnes à aller se faire vacciner. Mais on s'entend tous ce matin pour dire, vous et moi, là, que le 100% de une population 100% vaccinée, ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Alors, on continue notre conversation, si vous le permettez. On a un prochain invité qui est professeur de droit constitutionnel à l'Université Laval. Vos réactions sont très, très, très nombreuses. Vous faites partie de ce débat ce matin. C'est fort intéressant. On poursuit dans quelques instants.
Partout au Québec, la parole est à vous. Pour participer à l'Effet Normando, 1-866-790-9850 et sur le web.
Je vous lis rapidement deux textos avant d'aller à notre prochain invité. Ah, peut-être un auditeur avant notre invité. Jeff de Sherbrooke, je suis vacciné totalement contre cette mesure. Contribution santé pour les non-vaccinés. Ici au Québec, on a un système public. Si on veut un système utilisateur-payeur, il n'y a pas de problème. Mais en tant que travailleur de la construction, je paye déjà environ 40 000 $ d'impôts par année pour une panoplie de services que je n'utilise pas. Alors, lui, sa priorité, c'est qu'on reparte l'économie au plus vite. Olivier a une position opposée à celle de Jeff Olivier qui nous écrit de l'Estrie. Je crois que la contribution santé est une bonne idée. Ça fait 2 ans que ça dure, le vaccin gratuit pour tous. La portion de la population qui refuse de se faire vacciner décide de prendre volontairement un risque pour leur santé, un risque qui impacte tout le monde, pas seulement pour leur petite personne, puisqu'ils monopolisent inutilement des ressources en santé dont tout le monde a besoin. Je vais aller joindre Patrick, qui est un auditeur qui souhaite réagir à cette annonce du gouvernement hier. Bonjour, Patrick.
Bonjour.
Bon mercredi. Où est-ce que vous vous situez dans ce débat?
Moi, dans ce débat-là, je suis pour d'aller piger dans les poches des gens qui sont non vaccinés, mais ça dépend toujours de la façon que c'est fait. Si on va chercher dans la poche des gens, comme il s'est annoncé probablement à l'impôt, que les gens vont payer sur leurs impôts, c'est un délai énorme entre aujourd'hui et le moment où est-ce qu'ils vont avoir à payer. Le problème est maintenant, il est réaliste maintenant. Je me dis, j'ai écouté vos auditeurs, puis écoutez, c'est réel de dire on doit piger dans leurs poches maintenant. Si vous allez à l'hôpital, vous payez maintenant pour vos frais, comme ça a été expliqué dans d'autres pays qui font. La vaccination obligatoire, je suis pour ça aussi. Tout ce qui doit être fait pour que ça se passe maintenant et non à délai éventuel de dans 6 mois, dans 1 an, on va aller peut-être piger dans vos poches, comme c'est un grand coup d'éclat, je pense, l'annonce du gouvernement de dire bon, vous fait peur, hein? On va peut-être aller piger dans vos poches. Je trouve que c'est trop loin comme délai.
OK, parfait. Merci beaucoup. On va aller de Patrick, on va passer dans un autre Patrick. Notre invité est Patrick Taillon, professeur de droit constitutionnel à l'Université Laval. Bonjour à vous, M. Taillon.
Bonjour.
Patrick, il y a Patrick qui vient justement de nous parler de... Ben évidemment, je me suis dit, ça rejoint l'aspect juridique de la chose. Bon, est-ce que le gouvernement va trop loin sur le plan juridique? Est-ce que vous pensez que ça passe la rampe? Ça pourrait passer la rampe, même si on n'a pas beaucoup d'informations, là? Une contribution santé destinée aux non-vaccinés?
Il y a beaucoup de restrictions aux droits et libertés inimaginables il y a quelques années qui ont passé la rampe dans les derniers mois. Sur tout, moi, d'abord, le principal malaise que j'ai avec la politique actuelle du gouvernement Legault, c'est que, à l'inverse du gouvernement Trudeau, on n'assume pas la part de vaccination obligatoire ou de vaccination quasi obligatoire que contient cette politique. C'est-à-dire qu'on on pratique la vaccination obligatoire parce qu'au fond, la vaccination obligatoire qui consisterait à débarquer chez les gens puis à les vacciner de force, ça n'existe pas. Là. Ça, c'est pas sérieux. La vaccination obligatoire, ça consiste, dès du moment où on dit vous ne pouvez plus accéder à certains lieux, que ce soit la SAQ ou un bar ou je ne sais quoi, sans être vacciné, on est dans de la vaccination quasi obligatoire ou en tout cas partiellement obligatoire. Et là, on fait un pas de plus parce qu'on applique une conséquence financière généralisée au fait de ne pas être vacciné. Donc, ça va être inévitablement contesté devant les tribunaux, comme à peu près toutes les règles qui nous régissent depuis déjà bientôt 2 ans. Sauf que les tribunaux ont envoyé des signaux assez clairs, puis qui je dis pas règle la question, là, mais conforte le gouvernement dans sa position. Ça s'est passé au début novembre dernier. On en a assez peu parlé, mais dans l'espace de 10 jours, il y a eu 3 décisions de 3 tribunaux différents qui ont confirmé provisoirement. Puis là, je prends une seconde pour expliquer ce que ça veut dire provisoirement. Ça veut dire en attendant qu'on ait le temps de débattre entièrement de la question, que ça prenne des mois, des années. Et donc, dans le contexte de la COVID, une décision provisoire, ça suffit pour le gouvernement parce qu'il y a des bonnes chances que ni M. Trudeau ni M. Legault soient au pouvoir le jour où la Cour suprême aura enfin tranché toutes les questions entourant la COVID. Donc, c'est des décisions en attendant, mais elles sont très importantes. Il y en a eu 3. Une sur la vaccination obligatoire des employés de la santé, ça a passé le test, provisoirement. Le gouvernement a reculé ensuite, mais il n'a pas reculé pour des raisons juridiques ou des raisons de droits et libertés, il a reculé pour pas aggraver la pénurie de main-d'œuvre en santé. Le passeport vaccinal, qui est une forme de vaccination obligatoire partielle pour certains lieux, la juge Nancy Bonsaint a provisoirement confirmé, et surtout, on l'oublie parce qu'Ottawa, c'est loin, mais le Canada fédéral, la partie du Canada qui est gérée par le gouvernement fédéral, pratique une vaccination obligatoire complète, là. Et ça a été provisoirement confirmé par la Cour d'appel, par la Cour fédérale. Je vous rappelle que c'est l'ensemble des employés, l'ensemble des usagers et même les fournisseurs. Les conséquences sont graves. Un employé peut être suspendu, il perd sa capacité de gagner sa vie. Fait que là, on a un peu un étalon de mesure. Si à Ottawa, dire à quelqu'un, tu peux plus travailler parce que t'es pas vacciné, ne peut plus faire affaire avec l'État fédéral, on ne peut plus prendre un train via rail, ben tout à coup, si ça passe le test, une contribution financière, ça semble un peu moins grave. Ça dépend de l'ampleur de la contribution, puis surtout qu'il y a une bonne partie des personnes qui sont non vaccinées au Québec qui font probablement même pas de déclaration d'impôt. Il y a
absolument
une partie des gens non vaccinés qui ont un mode de vie plus marginal, qui fait en sorte que soit absence de revenus, soit un peu de décrochage civique ou je ne sais quoi, et ils n'en produisent pas. Il y a beaucoup de gens qui ne paient juste pas d'impôts au Québec. Ça n'a peut-être pas une incidence directe dans leur vie. Donc, au jeu des comparaisons, fort probablement que la gravité de la sanction, la gravité de la conséquence de ne pas être vacciné est moins pire avec ce que Québec a annoncé, il faudra voir les détails, que ce qu'Ottawa pratique déjà. Donc, j'ai l'impression que les tribunaux vont confirmer, mais moi, j'ai quand même un malaise parce que jusqu'à présent, les tribunaux ont confirmé beaucoup de restrictions aux droits et libertés, mais ils l'ont fait, c'est toujours la même chose, les droits et libertés ne sont pas absolus. On peut toujours les limiter pour une bonne raison, puis si on utilise des moyens raisonnables. Donc, ça dépend du pourquoi et du comment.
Okay.
Et là, il y a un débat sur le pourquoi. Oui, pardon.
OK, Patrick, je ne veux pas entrer dans les détails trop juridiques,
oui,
là, mais si je résume votre propos, ce que vous dites, c'est que sur le plan juridique, le gouvernement, avec l'idée d'une contribution santé pour les non-vaccinés, aurait une bonne cause.
Oui, c'est certain que ça va être contesté, mais il y a des bonnes chances d'être capable de se défendre, comme le gouvernement Trudeau s'est défendu sur sa vaccination obligatoire, puis comme sur le passeport vaccinal. Par contre, ce qui pourrait nuire à sa cause, à mon avis, c'est la question du pourquoi, c'est quoi son but. Depuis le début, les mesures couvre-feu, confinement, etc., interdiction des rassemblements, ça visait à préserver notre capacité de soins dans les hôpitaux. Il y a un vrai état d'alerte, d'urgence dans les hôpitaux. Et donc, on dit aux gens, pas de contacts sociaux, parce qu'il faut qu'on puisse soigner notre monde. Puis s'il y a trop de contacts sociaux, on ne sera pas capable de soigner tout le monde. Là, on pratique une mesure qui, on peut se demander si le but, soudainement, c'est pas davantage de punir les non-vaccinés. Se faire plaisir à nous, la majorité des gens qui avons fait l'effort d'aller se faire vacciner deux fois, trois fois, et dire à ceux qui ont fait moins d'efforts, vous allez avoir un prix à payer pour ça. Et si les tribunaux considèrent que l'objectif ici, c'est se faire plaisir, punir une partie de la population, je pense que les chances du gouvernement vont être beaucoup moins grande de défendre sa mesure. Il faut être capable de se connecter le plus possible avec on limite les droits et libertés parce que sinon on ne sera plus capable de soigner le monde. Et c'est pour ça que moi j'aurais préféré des mesures beaucoup plus sévères, mais plus en lien avec on est présentement en crise. Alors que là, on est un peu dans le symbolique. Par exemple, la SAQ, je comprends que c'est un symbole fort, mais il y a moyen de commander à distance, il y a moyen d'acheter de l'alcool ailleurs. Et là, avec la fiscalité, on ne rejoindra pas tous les non-vaccinés, et c'est un truc à retardement qui est un peu abstrait, qui va intervenir dans plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, j'aurais préféré, moi, des mesures plus strictes, mais plus à court terme.
Avez-vous un exemple concret de mesures plus strictes?
Un confinement à l'espagnol, là. Autrement dit, avant qu'on ait le vaccin, c'est ce qu'on vivait, hein. Quand le système de santé était en état d'alerte, on était chez soi, confiné. Donc, moi, j'aurais aucun problème à ce que, parce qu'on veut protéger les non-vaccinés, on veut leur protéger leur santé. En ce moment, il y a trop de propagation. On n'est plus capable de tester tout le monde. Donc, pour les protéger contre eux-mêmes, il faut qu'ils soient confinés à domicile. Et donc, là, soit un couvre-feu qui, pour eux, s'étend, je sais pas, moi, 18 heures sur 24, soit l'obligation de présenter le passeport vaccinal largement étendu, même là à la frontière des services essentiels, dans la mesure où, par exemple, à l'épicerie, je sais que c'est essentiel de faire son épicerie, mais il y a une solution de rechange qui s'appelle la commande en ligne. Donc, moi, je serais allé très, très loin à court terme pour éviter que des personnes non vaccinées se retrouvent dans le système de santé. C'est ça le nerf de la guerre.
C'est
là qu'on va échouer ou réussir dans la gestion de cette crise.
L'idée d'étendre le passeport vaccinal à un maximum de services, certains vont plus loin en disant tous les services, ça revient pas mal dans les commentaires de nos auditeurs. Il y a aussi l'idée de payer une contribution en fonction du revenu. Mais oui. Là encore, il y a des auditeurs qui disent on ouvre une boîte de Pandore parce que comment tout ça va être administré, est-ce qu'on va répondre à l'objectif? Il y a un auditeur, c'est très juste, Alex, qui nous écrit, pensez-vous vraiment que vacciner tout le monde va régler le problème? Il donne l'exemple d'Israël. Ils en sont leur quatrième dose, je pense, pour les 60 ans et plus. Et le variant fait toujours des ravages là-bas, là, même si le taux de vaccination est très, très élevé là-bas. Très élevé là-bas. Ce qui fait dire à plusieurs de nos auditeurs que le premier ministre a voulu faire diversion, puis que c'est une mesure qui est plus politique, qui n'a rien à voir avec la santé publique et aussi électoraliste. Mais oui. Sur le plan juridique, vous êtes convaincu, Patrick, que cette mesure, si elle est effective, si elle est adoptée, qu'elle sera contestée. Ça, vous êtes sûr de ça?
Oui, dans les autres provinces, au Québec, elles sont très rares, les restrictions liées à la crise de la COVID-19 qui n'ont pas été contestées. Il y a des contestations qui ont été plus farfelues que d'autres plus sérieuses. Elles ont toutes échoué, à l'exception d'une, celle sur l'application du couvre-feu aux sans-abri. C'est la seule victoire des gens qui sont engagés dans ces contestations pour le moment. Comme je le disais tantôt, la plupart des décisions, c'est des décisions en attendant, provisoires ou interlocutoires. Mm-hmm. Donc, un jour, les tribunaux vont se prononcer sur le fond et on connaît leur délai. Sauf que c'est certain qu'un jour, le contexte étant appelé à changer, un jour ou l'autre, les tribunaux vont dire, ben là, maintenant, le contexte ne le justifie plus. Donc, voilà. Autant on a des tribunaux qui, pour le moment, ont fortement convergé, ont été solidaires des élus d'une certaine manière. Il y a eu des petites remontrances, des messages, des indications, mais au final, les mesures ont été validées. Mais il est inévitable qu'un jour ou l'autre, les tribunaux vont changer leur fusil d'épaule. Et je pense que plus on reste connecté sur l'objectif précis, là, qui est préserver la capacité de soins. Oui, on a des attentes à l'endroit du vaccin qui sont immenses, puis peut-être qu'à certains égards, le vaccin fonctionne, mais il livre pas toutes les promesses qu'on a pu avoir à l'endroit de la disparition de cette maladie-là. Mais le vaccin fonctionne quand on reste centré sur l'objectif, éviter d'engorger les soins intensifs. Et ça, là-dessus, il y a un lien direct entre certaines mesures qui restreignent les droits et libertés et la préservation de notre capacité de soins. Et tant qu'on reste focus là-dessus, j'ai l'impression que les tribunaux vont rester solidaires de ces politiques.
Merci beaucoup, Patrick Taillon, pour cet éclairage juridique et constitutionnel. Et vous êtes professeur, justement, en droit constitutionnel à l'Université Laval. Excellente journée. Bonne année à vous, Patrick. Merci.
Merci à vous.
Bye-bye. Avant d'aller à la pause, on poursuit cette discussion sur la contribution santé. Caroline nous écrit « Bonjour, j'ai demandé à mes futurs locataires d'être vaccinés. Bonne nouvelle, leur première dose est vendredi. » Est-ce que je comprends? Est-ce qu'on comprend, Caroline, vous avez dit à vos locataires, si vous souhaitez avoir le logement, l'appartement, il faudra être vacciné. Hein? Comme quoi, parfois, j'oserais dire, la contrainte, ça donne certains résultats. On poursuit, dans quelques instants, après cette pause à laquelle nous conduit notre ami Jean-Christophe, metteur en onde de cette émission.
Jusqu'à midi, vous écoutez l'effet Normando. L'effet Normando, la parole est à vous.
Je souhaite vous lire avant de prendre vos appels. Marc qui dit « Je suis sur l'aide sociale, je vais à l'épicerie une fois par mois. Je sors pas de la maison, j'ai pas d'Internet, pas de carte de crédit. Alors, des achats sur Internet pour ses commandes en ligne, il dit « Je n'ai pas assez d'argent, oubliez ça, ça fonctionnera pas. » Alors ça, c'est une réalité. Tu sais, c'est pas noir, c'est pas blanc ce débat-là. La réalité de Marc, c'est la réalité de plusieurs personnes au Québec, des gens qui vivent dans des situations difficiles. Et puis, prenons, si on impose effectivement le passeport vaccinal pour tous les commerces, il va faire quoi, Marc? Je pose la question, c'est concret. Il va falloir qu'il trouve une façon de se nourrir. Alors, les services essentiels, moi, avec le passeport vaccinal, personnellement, je suis contre. Nancy nous écrit sur le courriel, je ne suis pas contre cette contribution, cette taxe, mais il ne faut pas perdre de vue que nous sommes dans cette situation à cause de notre système de santé médiocre. Pourquoi personne ne challenge le premier ministre là-dessus? Elle dit, c'est pas normal qu'une province soit dans cette situation à cause de 250 personnes aux soins intensifs. Vous rendez-vous compte? C'est invraisemblable. C'est facile d'accuser les non-vaccinés. Je le fais moi-même et je me répète, le problème est le plus grand que les non-vaccinés, le système ne fonctionne pas. Vous avez tout à fait raison, Nancy, il va falloir qu'on s'attarde à ça comme société après. C'est pas parce qu'on n'a pas tenté de réformer le système de santé là, depuis les années 80 à peu près. Là. On a tenté de réformer, mais là, on a frappé le mur, comme on dit. Francis est au bout du fil. Merci à vous, Francis, d'avoir pris soin de téléphoner.
Ça va bien?
Oui, ça va bien. Quelle est votre opinion sur le sujet?
Ben en fait, c'est que moi, je pense que la contribution santé, c'est pas une mauvaise idée. Par contre, va falloir réouvrir les services aux gens pas vaccinés en société, en fait, là, parce qu'ils vont payer une contribution santé. Donc, à ce moment-là, ils vont avoir le droit de pouvoir aller au restaurant, de pouvoir faire des activités où que le passeport vaccinal est demandé s'ils payent une contribution symboliquement.
Ouais, mais oui, effectivement, tout à fait. C'est le but, hein, c'est de les forcer à aller se faire vacciner. Mais si on prenait le problème à l'envers, Francis, je vous pose la question parce que plusieurs auditeurs nous disent pourquoi pas, dans le fond, utiliser un moyen positif, par exemple, donner un avantage aux vaccinés, nous soulager de 150 $ pour notre contribution au fonds santé par année. Est-ce que vous pensez qu'on arriverait à l'objectif puis à convaincre les vaccinés, les non-vaccinés d'aller se faire vacciner avec un moyen comme celui-là?
Je penserais pas, non. Puis étant donné les difficultés qu'a notre système de santé, en fait, je pense pas que ce serait d'aider le système d'enlever de l'argent que les gens payent, en fait, là, pour la machine.
OK, je comprends. Merci beaucoup, Francis. Je vous souhaite une excellente journée. Au tour de Diane, maintenant, de s'exprimer sur le sujet. Bonjour, bon mercredi à vous.
Bonjour à vous. Moi, je voudrais, pour la contribution, je dis non.
Okay. Pourquoi?
Moi, je suis tout le temps confinée dans la maison. Le seul temps que je sors, c'est pour aller à l'épicerie.
Est-ce que vous êtes vaccinée, Diane?
Médicaments. Non, okay. Je ne suis pas vaccinée. J'ai des réactions, des grosses réactions aux médicaments. Fait que j'ai pas le goût de tenter ma chance là-dedans.
OK. Donc, vous faites partie de la catégorie, des exemptions médicales. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça dans votre cas?
Oui, mais j'ai aucun papier puis j'ai aucun médecin.
OK. Donc, vous, ce que vous dites,
c'est
attention.
Parce que le médecin que j'avais, il n'y a plus de licence.
Ah, mon Dieu, OK. Mais ce que vous dites, c'est attention, si on impose une contribution santé, moi, je vais. Vous vous dites, c'est pas parce que je ne vais pas me faire vacciner. Je ne suis pas contre, mais ce n'est pas possible pour moi.
C'est ça.
OK. Merci beaucoup, Diane. Merci. Merci d'avoir appelé. Yves souhaite s'exprimer. Bonjour, Yves.
Bonjour, Mme Laurando. Ça va bien?
Oui, oui, mon cher. Qu'en pensez-vous de cette... C'est vraiment pas simple hein, comme sujet ce matin.
Ben, c'est pas simple, mais en même temps, je trouve qu'on a tendance à se compliquer la vie. Moi, je suis contre tout simplement parce que, connaissant la société canadienne, c'est sûr que ça va être contesté, puis c'est sûr que ça va être contesté jusqu'en Cour suprême. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va amener encore des dépenses au niveau légal pour le gouvernement, etc., et le coût que ça va prendre pour mettre des fonctionnaires en place pour faire fonctionner tout cet impôt-là qui va être récupéré seulement l'année prochaine, je trouve que ça n'a pas de sens. Si le but est de restreindre les non-vaccinés, de répandre le vaccin et de se promener en société, ben il y a un système qui est déjà en place, qui existe déjà et qui a été testé, je crois, par les tribunaux. C'est concernant les hommes qui ne payent pas leur pension alimentaire, qui se font suspendre leur permis de conduire. Alors, on pourrait simplement suspendre le permis de conduire de ceux qui ne sont pas vaccinés. Ce serait facile avec le numéro d'assurance l'assurance maladie, de le matcher avec le numéro de permis de conduire. On suspend comme ça, les gens ne pourraient pas se promener allègrement partout. Et ils ne pourraient pas rentrer nulle part parce qu'ils n'ont pas leur vaccicode. Je pense que pour la majorité des gens qui sont non vaccinés, de ne plus avoir de permis de conduire, je pense que ça serait un incitatif assez important, comme certaines personnes que je connais, que leur employeur les a forcés à se faire vacciner parce qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner, puis parce que de peur de perdre leur emploi, ils ont décidé d'aller se faire vacciner.
OK. Vous êtes le deuxième auditeur qui propose qui fait une proposition dans ce sens-là de priver les non-vaccinés de leur permis de conduire. Mais j'ai bien hâte de voir sur le plan juridique, sur le plan éthique, à quoi on va faire face. Mais avant d'aller à la pause, je souhaite partager avec vous des données sur combien ça coûte aller aux soins intensifs au Québec et se faire soigner dans nos hôpitaux. Alors, le coût moyen d'un séjour à l'hôpital pour quelqu'un qui est atteint de la COVID, 23 000 $, 15 000 $ sans recours aux soins intensifs et 50 000 $ si vous recourez aux soins intensifs versus 5 000 $ si vous êtes atteint de la grippe et si vous allez à l'hôpital. Fait que c'est des chiffres qui font extrêmement réfléchir. La COVID, ça nous coûte cher. Ça coûte cher collectivement. C'est vraiment, c'est tout un défi qu'on a devant nous, mais le gouvernement va certainement nous arriver avec une solution au cours des prochains jours.